à partager l'Évangile, Gilles, l'Évangile, à Trois-Rivières-en-Blouse et puis à Saint-Tite, ça, il y a de la place. On va commencer, si on peut mettre la présentation. C'est la suite de la série sur 1 Pierre. Et puis, je trouvais ça un petit peu long parce que ça parlait souvent de la souffrance. Fait que je voulais vous le dire quand même, que moi-même, je trouvais ça un petit peu long. Mais il y a des bonnes affaires dedans. Et puis, ce matin, c'est un texte qui parle de la souffrance. Et puis, des grandes difficultés. Là, je pense que c'est parmi les pires difficultés de la Bible. Puis, on aura l'occasion de regarder ça. C'était pas ça que j'aurais prévu naturellement, mais c'est un peu la suite du texte, mais je pense que ça peut être utile aussi pareil. Et je vous propose que... ici, comme ça, ça devrait marcher habituellement, ça marche. Comme ça. Ça, c'est, mais c'est lui qui l'a fait. C'est pas juste. Donc, c'était un petit peu cette image-là qui est revenue à chacune des présentations. Je pense que ça fait plusieurs, là. Parce qu'il y a des gens qui souffraient vraiment beaucoup. Comme aujourd'hui, dans certains pays, il y a des gens qui souffrent beaucoup. Et c'était pour nous mettre un petit peu dans ce contexte-là et nous encourager si on souffre. Et je pense que chacun, on a des défis face à la souffrance. Et ce que j'aimerais faire, c'est de lire le texte. Tu vois, hey, ça ne marche pas. Puis dis-moi pas que ça va faire ça tout le long. Comme ça, comme ça, comme ça. Si vous réglez le problème, dites-le moi. Hein, ils font tout bien ça à la techno. Ils me disaient, as-tu des audios? As-tu ci? As-tu ça? Ils se préparent. Et puis, finalement, il y a des petits bugs. On dirait que la techno est humaine. L'erreur est humaine. Bon, on va lire. Hey, c'est trop vite, là. Ah! OK, lecture. On va lire le texte, ensuite on va prier. Puis vous allez voir dans le texte, c'est des choses un petit peu spéciales. Christ aussi, c'est dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison. Ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche, un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvés à travers l'eau. C'était une figure. Nous aussi maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ, qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances, et se trouve à la droite de Dieu. Ainsi donc, puisque Christ a souffert pour nous, dans son corps, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché, afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre ici-bas. C'est déjà bien suffisant d'avoir par le passé accompli la volonté des non-croyants en marchant dans les désordres, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et autres beuveries, ainsi que dans les idolâtries criminelles. Aussi trouvent-ils étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Ils rendront des comptes à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. En effet, l'Évangile a aussi été annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés, comme tous les hommes ici-bas, ils vivent, selon Dieu, par l'Esprit. C'est le texte qui va nous occuper ce matin. Je propose qu'on prie. Seigneur, on se tourne vers toi pour demander ton aide, ton secours, ton soutien, ta direction pour parler et pour écouter, et qu'on puisse tous recevoir de ta parole une nourriture qui nous fasse grandir et qui nous sauve aussi, qui nous attire à toi et qui te révèle à nous pour la gloire de ton nom. Amen. OK, juste une petite révision de ce qu'on avait lu la dernière fois, là, je pense 2 mois, et c'était le verset 18. Dans le fond, tout le message avait été sur le verset 18, qui est un super de beau verset. Puis c'est comme dit en passant, en parlant de la souffrance, et puis, Christ aussi a souffert, et ça une fois pour toutes, pour les péchés. C'était la notion d'un substitut, de substitution. Ce n'est pas juste une petite parenthèse, un accident qui arrive juste là. C'est à travers toute la Bible que ce principe-là de substitution était présenté. Depuis le temps d'Adam et Ève, qui avaient donné un habit fait de peau d'animaux, qui était mort à la place des coupables. Caïn et Abel, leur enfant, avaient présenté des sacrifices. Abel avait présenté un agneau qui mourait. Et cette notion-là, un peu étrange peut-être pour nous, d'une victime, c'était ça l'intention, la compréhension, une victime mourait à la place du coupable. Noé a fait ça, Abraham a fait ça, avec même son propre enfant, mais ça a été finalement un agneau. Isaac, Jacob, Moïse ont fait ça. Et cette notion-là, on la retrouve aussi bien développée dans la loi de Dieu, dans la Torah, dans le Pentateuque de Moïse. C'est dit, Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël. Mais oui, on a fait ça, oui, on s'est rebellé, oui, on a menti. Et là, on les confessait toutes sur la tête, sur lui. Et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché, il les mettra sur la tête du bouc. Puis, il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Il y en avait un autre qui mourait. Bon, mais on comprend le principe d'un substitut, un porteur de péché. Il y avait un agneau aussi qui mourait à la place du croyant. Il était un porteur de péché. Fait que cette notion-là là, de Christ qui mourait à notre place, et dans toute la Bible, j'avais cité Ésaïe 53, une merveilleuse prophétie du serviteur souffrant, du Messie souffrant. Où est-ce que c'est dit de lui, on l'a fait souffrir, mais lui, il a accepté cela et il a gardé le silence comme un agneau. C'est ça qu'on sacrifiait, un agneau. Qu'on mène à l'abattoir comme un mouton qui ne crie pas quand on lui coupe la laine. Il a gardé le silence, on l'a arrêté, jugé, puis supprimé. Mais qui a fait attention à ce qui lui arrivait? Oui, on l'a enlevé du monde des vivants et il a été frappé à mort à cause des fautes de son peuple. Pas à cause des siennes, il était le substitut à cause des fautes d'un autre pour lequel il mourait. Donc, ce n'est pas une notion exceptionnel ou étrange dans la Bible, c'est quelque chose qu'on trouve d'un couvert à l'autre. Cette notion de Christ qui a souffert pour les péchés, lui le juste pour les injustes. Et ça dit, dans la suite, qui a souffert une mort humaine et il était rendu à la vie par l'Esprit. Et c'est là qu'on va tomber dans les passages plus difficiles. C'est dit, c'est alors aussi qu'il est entré faire une proclamation aux esprits en prison. Il, c'est Jésus. Ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois dans la patience de Dieu. Là, c'est quoi cette affaire-là qui vient tomber Noé là-dedans, les esprits en prison, d'aller leur prêcher, pour quoi faire? Et puis, Avant, là, on va faire une petite parenthèse. Juste pour dire, qu'est-ce qu'on fait avec les passages difficiles? Est-ce que ça arrive juste à moi de trouver des passages difficiles dans la Bible? Oui, juste à moi. Il y en a des passages plus difficiles. Et j'ai quelques conseils. OK? Petite parenthèse. Un, soyons humbles. On est plusieurs à avoir des difficultés à comprendre. C'est comme peut-être pas nouveau. Puis là, ça me calme un petit peu de dire, il y en avait d'autres qui avaient aussi des difficultés, comme moi. Ça dit que dans 1 Pierre, justement, qu'on étudie, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. Là, je dis des choses, je prophétise des choses, même pas pour moi. Et puis, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Puis là, je vois un petit peu plus loin. À la fin de la citation, ça dit, « Et dans lesquels les anges désirent plonger le regard. » Eux autres ici, ils ne comprennent pas. Eux autres ici, ils ne savent pas, ils cherchent à comprendre, même dans ces prophéties-là. Mais c'est quoi l'idée? Ah! Les prophètes ne comprenaient pas tout à fait. Les anges ne comprennent pas tout à fait. Et si on continue de rester humble, les disciples ne comprenaient pas tout à fait. On voit, mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. OK, bien, coudonc, on n'est pas en mauvaise compagnie quand on rencontre des textes difficiles. Ça peut nous calmer un petit peu. Hein? On n'est pas tout seul. Mais ils ne comprirent rien à cela. C'est ça que je pourrais dire, moi, concernant le texte de Jésus qui est allé prêcher aux esprits en prison, qui était rebelle au temps de Noé. Ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Ah ben, coudonc, je ne suis pas tout seul. Et même Pierre, qui dit qu'il y a des choses que lui-même ne comprend pas. Là, en parlant des écrits de Paul, je ne lirai pas toutes, ça va regarder ici au verset 16, que Paul sait ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficile à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Fait que Pierre, il disait, oui, c'est vrai qu'il y a des choses difficiles à comprendre. OK, bon, coudonc, on n'est pas tout seul. Et puis même Paul, qui c'est ici, écrivait, « Car nous connaissons en partie » dans 1 Corinthiens 13. Verset 12, c'est dit, « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Même Paul, qui écrivait des choses, il disait, « Comprendre. » Il y avait des choses, il dit, « Je ne connais pas toutes. » Puis il y a des choses qui me dépassent. Fait que, bon, coudonc. Ça relativise un petit peu les problèmes. Il y a des choses difficiles à comprendre, pour nous aussi. Un autre petit conseil concernant les textes difficiles, un deuxième conseil, c'est prudence. Évitez les explications qui sortent du cadre biblique. Les textes qu'on va lire, là, parmi, il y a certains groupes qui ont réussi à les utiliser pour justifier des belles idées, on peut dire créatrices, originales, nouvelles. Mais ça, bibliquement, là, ça ne compte pas beaucoup. C'est comme ce que le Seigneur demande à un. Celui qui présente la parole, c'est qu'il soit fidèle, pas créateur, original, puis des idées nouvelles que jamais personne n'a entendues. Non. Il présente la Bible. Et puis, donc, il y a des groupes dans les passages difficiles, justement, qui ont sorti ici le purgatoire dans les passages qu'on va voir. Le salut universel va être défendu par certains groupes en utilisant ces versets-là. Fait que, non. Moi, ce que je parle souvent... Des fois, en rencontrant les témoins de Jéhovah, je leur demande, écoute, dans le livre de Moroni, là, Joseph Smith a eu des révélations, mais comment ça se fait que Paul l'a pas su, ça? Jésus même ne la savait pas. C'est bizarre, hein, celle-là? Oui, c'est vrai, comment ça que Jésus ne savait pas? Puis c'est juste Joseph Smith qui l'a... Oui, tant qu'à faire. C'est comme... Ça sort un petit peu du cadre biblique. Alors, que mettons, Satan... Lucifer soit le frère spirituel de Jésus. C'est pas comme dans la Bible, ça. Tu as déjà vu ça dans la Bible? Non, hein? Pourtant, c'est dans la doctrine des témoins, des mormons, excusez. Et puis, c'est un petit peu ça. Les idées nouvelles qui sortent du cadre, Il faut faire attention avec l'originalité. Ce qu'on demande, c'est la fidélité. Et puis, il y a un passage pour venir appuyer ça, c'est de Pierre encore, qui dit « Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Les vérités essentielles de base ont été présentées clairement, plusieurs fois, de manière répétée, par bien du monde. Fait que si ce n'était pas clair là-dedans, pose-toi bien des questions. » Concernant donc les passages difficiles. Et un troisième conseil, dans ma petite parenthèse, au sujet des passages difficiles, c'est de garder un focus. Souvent, là, on est obsédé par la difficulté. Se concentrer sur les éléments principaux, qui sont souvent clairs et compréhensibles, plutôt que d'être obsédé par des éléments secondaires mystérieux. Comme dans notre texte ici, que Jésus soit allé dans l'esprit prêcher aux âmes en prison qui étaient rebelles dans le temps de moi. OK, t'as une minute. C'est vrai, je ne comprends pas, mais y a-t-il des choses que je comprends dans le texte qui sont claires? On va commencer avec ça. Et si vous voulez, ce que j'aimerais faire, c'est reprendre notre texte puis qu'on regarde juste au moins ce qui est clair. Des fois, il y a 20 % qu'on ne comprend pas, mais il y en a 80 % qu'on pourrait comprendre, mais qu'on ne cherche même pas à comprendre et à appliquer. À cause du 20 %. Comprenez le problème? Fait que, gardons au moins de 80. Puis c'est juste 20 % qu'on comprend. Mais quand même, c'est 20 % qu'on comprend. Et là, cherchons à le comprendre, ce 20 %-là. Et là, on va repasser à travers le texte. Facile, OK? Entre vous et moi, qu'est-ce qu'on peut comprendre facilement? OK? Fait que, c'est un petit verset ici qui Jésus qui critiquait justement des conducteurs aveugles qui coulaient le moucheron et qui avalaient le chameau. En voulant dire, les choses évidentes, ils ne les voyaient pas, puis là, ils voyaient les tout petits détails, comme obsédés par les petits détails que je ne comprends pas. Ah, c'est un texte, je ne comprends rien quand je lis. Oui, tu ne comprends pas le 20 % que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas à 100 %. Mais il reste 80 % que tu comprends à moitié. Bien, vas-y avec ça. Donc, si on reprend un petit peu le texte, j'espère que ce ne sera pas trop lourd, là. On va le relire au complet, puis en essayant de voir les choses qu'on peut comprendre. Et puis, je pense qu'il y a du bon stock pareil. Dedans, ça dit, « En effet, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu. » J'ai repris un petit peu dans son contexte, « En faisant le bien qu'en faisant le mal. » Il est en train comme désencourager. Hein, vous voyez ça? C'est mieux. Christ aussi a souffert. Puis là, il dit, prends comme un exemple Christ qui lui aussi a souffert, parce que c'est vrai que c'est plate quand tu fais le bien puis tu souffres. Donc, je pourrais résumer un petit peu, c'est un encouragement pour ceux qui souffrent en faisant le bien. Car Jésus aussi a souffert, mais Dieu l'a secouru. Puis on voit ici, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. Fait que prenez courage. Regardez Jésus, ça a bien viré. Vous aussi, lui aussi souffrait justement. Regardez, il s'en est occupé, Dieu. Il avait un plan. Il avait son idée en tête. Et puis, j'ai un petit encouragement là-dedans. On continue. C'est alors qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison, ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé pendant la construction de l'arche. Oui, il y a des passages que je ne comprends pas, mais ça me dit quand même qu'il y a des rebelles qui étaient là à un moment donné, quand ils construisaient l'arche, puis ces rebelles-là, ils ont été avertis de se repentir. Ça, c'est vrai? C'est facile, c'est clair. Donc, des rebelles ont été avertis de se repentir. Je continue mon petit texte. Un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. OK, là, je peux dire qu'il y a un jugement qui est arrivé, l'eau, mais il y en a quelques-uns au moins qui ont été sauvés. Mais le jugement est venu et seulement un petit nombre a été sauvé. Ouf, petit nombre, pas gros, 8. Toute la terre, 8 seulement, 8. C'est pas gros, c'est vrai. Fait qu'au moins, ça, c'est facile. C'est vrai? J'ai pas des grosses explications, mais il y a un petit peu de jus qui nous reste, c'est ça que je veux dire. Et là, ça continue. C'était une figure. Nous aussi, maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. OK, c'est difficile un petit peu à comprendre, mais je peux dire, on était aussi, nous autres, baptisés, on va être sauvés d'un jugement. On verra la suite, OK? Il y en aura d'autres à dire concernant le baptême et puis qui nous sauve. Je continue. Il nous sauve, le baptême, à travers la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ. OK, le baptême, ça nous sauve quelque part, d'une certaine manière, à travers la résurrection de Jésus-Christ, qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités, des puissances qui se trouvent à la droite de Dieu. OK, le baptême, ça va me sauver, ça va m'aider. Le baptême nous sauve du jugement dans le sens que nous sommes associés à Christ ressuscité. Au moins ça, ça semble être clair. Ainsi donc, puisque Christ a souffert pour nous dans son corps, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Christ a souffert, bien moi aussi, je vais être fort. Armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché. OK, là, il faut que je tourne la page. C'est fini. Afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre ici-bas. Donc, ça me dit qu'il faut que j'accepte de souffrir comme Christ et vivre une vie séparée du péché et de ses tentations. Pas facile, mais bon, c'est ça que ça semble dire. Mais déjà, c'est comme un encouragement. Écoute, tourne la page sur ces choses-là du péché. Puis, déjà, au moins, c'est facile à comprendre dans le texte. Je continue. Et ça achève, OK? C'est la dernière petite portion. Je ne voulais pas que ce soit si long. C'est déjà bien suffisant d'avoir, par le passé, accompli la volonté des non-croyants en marchant dans les désordres. Là, ça me dit, toi, l'affaire, là, il dit, toi, tu as fait ça quand tu étais non-croyant. Arrête. C'était déjà trop. Ça me dit, c'est déjà mal d'avoir, par le passé, participé au péché des non-croyants. Ça continue. « Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. » Fait que ceux avec qui je faisais le party, maintenant ils se revirent un petit peu contre moi puis ils disent « C'était bien étrange que tu ne participes plus avec nous puis ils nous calomnient. » Ah ben là, je vais souffrir, possiblement, parce qu'on ne les suit plus. Ils vous font souffrir parce que vous ne les suivez plus. Et là, verset 5, c'est dit, « Ils rendront des comptes à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. En effet, l'Évangile a aussi été annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme tous les hommes ici-bas, ils vivent selon l'Esprit. » Là, ça me dit, écoute, ils vous font souffrir, mais ils vont rendre compte lors du jugement. Comme dans le temps de Noé, ils ont rendu compte. Vous voyez, il y a quand même pas mal de stock qu'on comprend facilement. Si je ne m'attarde pas aux choses très difficiles, c'est une partie de la solution aussi. Regardons ce qu'on comprend, le 80% habituellement qu'on comprend assez bien. Fait que si je regarde le message, là, je le résume un petit peu. Vous souffrez maintenant, mais Jésus aussi a souffert et Dieu a permis cette souffrance dans son plan pour une bonne cause. Dans le fond, c'était pour nous sauver. Maintenant, moi aussi, je souffre. Ah, peut-être qu'il y a une bonne cause aussi. Je ne la comprends pas. Je ne la connais pas. Mais là, la question, peut-être l'application. Même dans un texte comme ça, l'application, est-ce que je crois que mes souffrances ont un but dans le plan de Dieu? Je ne sais pas si des fois, tu sais, vous êtes comme tanné, tu sais, on est usé, fatigué, là, parce que, il me semble, ça rime à rien, ma vie, tu sais, il n'y a pas de... Tu sais, je parlais avec une fille au GBU, elle me disait, il me semble que, tu sais, je suis au laboratoire, puis ma vie, il n'y a rien... C'est pas la vie victorieuse, et puis, où est-ce que, tu sais, je parle, puis des choses se passent dans ma vie, puis c'est beau, puis c'est bien. Puis c'est sûr, c'était triste à voir, tu sais, t'es découragé. Et puis, tu sais, je réfléchissais à ça, puis après, je me disais, vivre par la foi, là, par définition, c'est comme souffrant. Parce que t'as pas ce que t'espères. Si tu l'avais, tu souffrirais pas. Mais parce que tu ne l'as pas, puis là, il faut que tu avances, même sans que tu l'ailles, par la foi. Tu n'avances pas par la vue, tu avances par la foi. Fait que c'est éprouvant de marcher par la foi. Puis je pensais à Abraham. Abraham, va dans le pays que je te donnerai, quitte ton peuple. Ça va être un pays ruisselant de lait, de miel. Tu vas voir, tu vas être... Je vais changer ton nom, tu vas devenir... Hey, ça va être... Ton nom, là, ça va être père d'une grande multitude. Oh, ouais, c'est le fun, hey, je pars, je m'en vais. Dans le pays que je ne connaissais pas le nom, j'arrive là-bas, c'est la famine. Mais voyons donc, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il miel? Ça va en Égypte. Là, tu te dis, wow, c'est ça le père de ceux qui ont la foi, Abraham. C'est sûr, c'est éprouvant. Le père d'une grande multitude. J'en ai pas d'enfant. 75 ans. J'en ai encore pas d'enfant. 99 ans. C'est ça, par la foi, par définition, c'est éprouvant. La foi, c'est mis à l'épreuve parce que c'est la foi. Si tu marches par la foi, c'est pas facile. Il y en a un enfant, ben va, offre-le en sacrifice sur la montagne. Ah, tabarnouche. C'est comme la... Arrête, là! C'est comme trop. Mais c'est ça, la foi. Mais par la foi, oui, il l'a offert. Et par la foi, il a été justifié. Parce qu'il a offert son unique. C'est ça qui est beau. C'est ça qui glorifie Dieu. Quand on marche par la foi. Donc, face à nos souffrances. Oui, on en a des souffrances. Et puis, plus qu'on marche par la foi, plus qu'il va en avoir des souffrances, je pense, par définition. Mais ça fait comme partie du problème. Puis une fois que tu l'acceptes, ça, tu sais, c'est l'évangile de prospérité, tu vas être déçu de souffrir. Mais sinon, tu sais, si ça fait partie du programme que Christ a souffert, vous aussi, en faisant le bien, c'est normal, c'est que lâche pas, tu fais ça bien. Puis la petite jeune, là, tu sais, dans son labo, lâche pas, tu fais ça bien, encourage-toi. Encourage-toi, veut dire. Je pense que le Seigneur nous encourage. Donc, ça fait comme réfléchir un petit peu, d'accepter cette souffrance-là. Il y a un sens. Dieu dit, fais-moi confiance. Puis regarde Jésus, tu vois, ça a bien viré, fais-moi confiance pour le reste. Et puis, une autre leçon qu'on a dans le texte, quand on l'a résumé, des choses qu'on comprend bien, ça dit, si nous suivons Jésus malgré la souffrance, nous éviterons le jugement de Dieu qui viendra contre ceux qui font le mal, tout comme il est venu au temps de Noé. C'est comme clair dans le texte. Et là, c'est sûr que, hein, jugement, c'est vrai, jugement. Puis là, des fois, tu sais, je regarde la foule qui nous entoure. Vous ne savez pas qu'il y a un jugement qui s'en vient? Puis vous marchez insouciant, des imbéciles heureux, tu sais, que la vie est belle. Non, il y a un jugement qui s'en vient. Puis il nous dit dans le texte, tu sais, est-ce que je crois qu'il y aura un jugement et est-ce que je marche en suivant Jésus malgré la souffrance? Juste d'être allumé sur cette notion-là de jugement. Je me suis devancé dans mes petites notes. On va avancer et puis on va essayer quand même, c'est ça, de parler qu'il y aura un jugement. Puis je me souviens, dans ma famille, on faisait des petits temps au souper, tu sais, des dévotions, où est-ce qu'on lisait. Puis là, on jasait souvent sur des points comme ça. Et puis, c'était concernant le monde. Tu sais, il y avait un des jeunes qui aimait le monde. Puis, le monde est le fun. Puis je disais, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il va y avoir un jugement contre ce monde-là. Puis il y a une séparation. Allume, tu sais, comprends-le. La Bible ne dit pas ça. La Bible justement présente qu'il y a une tension, un combat contre le monde. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Veux-tu être dans le train de ce monde qui s'en va vers un jugement? Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Donc, il y a cette notion-là d'un jugement qui va venir contre le prince de ce monde, contre... Là, c'est comme, oh, OK, cette dimension-là qui est pas... dont on parle pas, hein? C'est quand la dernière fois à la télé, vous avez entendu parler du jugement qui va tomber sur le monde? On n'en parle pas souvent. Maintenant, bon, le temps... Ouais, il nous reste quand même pas mal de temps. J'aimerais ça qu'on regarde quand même les difficultés, parce que là, vous allez me dire que je triche si on ne regarde pas les difficultés dans le texte. Fait qu'on va la regarder certaines, mais bon, je ne serai pas satisfait, je sais d'avance. Tu sais, j'ai regardé, là, tu sais, il y a des explications. Plus que c'est pas clair, hein, plus que tu as des explications à lire. Puis là, tu en as différentes options. Moi, j'ai amené celle de Luther qui disait, concernant celle-là, il dit, je le sais pas. Fin des commentaires. OK, c'était le meilleur. C'était mon meilleur. Mais bon, on s'est quand même essayé de regarder un petit peu. La première des difficultés ici, on pourrait dire, c'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation, qu'il est allé prêcher aux esprits en prison. Dans le second, ça dit, il a été rendu à la vie par l'esprit dans lequel aussi il est allé prêcher. On lit ici dans le second. Mais c'est qui ça? Qui sont ces esprits en prison? Quand Jésus leur a-t-il prêché? Pourquoi leur a-t-il prêché? OK, bonne question. Il y en a deux, peut-être, explications principales. Si on prend deux minutes, là, juste pour en parler un petit peu rapidement quand même. On n'en parle pas souvent. Puis on est rendu là. Il y en a une qui dit que c'est avant que Jésus soit incarné, avant que Jésus vienne, il existait, il n'a pas commencé à exister. Ce matin, un ami musulman m'a envoyé un petit vidéo, 10 raisons pour lesquelles Jésus n'est pas Dieu. Et puis, il dit, il est né. Bon, il est né. Ça veut dire qu'avant, il n'existait pas. Puis là, il a commencé à exister. Dieu ne peut pas commencer à exister. Donc, Jésus n'est pas Dieu. Ben, c'est clair. Mais non, Jésus existait avant de naître. Et la Bible en parle clairement. Puis il dit, vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. Je vais retourner là où j'étais avant. Ah, ouais. C'est pas habituel, ça? Non, je ne suis pas habituel. OK, puis c'est ça qu'il faut comprendre, que Jésus, c'est un hors norme. Il n'est pas comme nous autres. Quand on est, on commence à exister. Lui, quand il est né, il n'a pas commencé à exister. Et donc, avant, il agissait. Puis là, on voit dans plein de places, ça serait long à dire, tu sais, ce rocher qui les suivait, c'était Christ. Et puis, ça parle aussi, dans ce verset-là, de Pierre encore, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Donc, les prophètes qui parlaient avaient en eux l'esprit de Christ, qui existait déjà à ce moment-là. C'est ce que la Bible dit. Ah, ouais. Oui. Et que Noé, qui agissait comme prophète pour avertir les gens de son époque, avait l'esprit de Christ et avait prêché à ces esprits-là en prison. Du temps de Noé, qui avait été rebelle, du temps de Noé. OK, bon, peut-être. Hein? Donc, ça peut être arrivé avant son incarnation. Puis il y en a d'autres qui disent, non, c'est pas ça, c'est arrivé après. Après qu'il soit ressuscité. Oh, OK. Là, quoi après? Bien, apparemment, il a proclamé à tout le monde qu'il était vraiment le roi, le vainqueur. Puis le texte, c'était encore dans 1 Pierre, dans le passage qu'on voit. Il nous sauve le baptême à travers la résurrection de Jésus-Christ qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances et se trouve à la droite de Dieu. Et là, c'est comme s'il a établi devant tout le monde que c'était lui, le winner, le boss. Bon, peut-être. Dans le fond, en conclusion, je vous présente ces deux options-là, mais je ne sais pas. C'est un peu énigmatique pour moi, mais je vous... comme deux pistes. Peut-être que ça va vous mettre l'eau à la bouche pour en savoir plus. Il y a des kilomètres de commentaires que vous pouvez lire sur Internet sur toutes ces belles questions-là. Deuxième difficulté. Et c'était concernant le baptême. Est-ce le baptême qui nous sauve? Là, si j'argumentais, là, tu sais, regarde ici, là. Un petit nombre de tas, c'est une figure. Nous aussi, maintenant, nous sommes sauvés par un baptême. Ben, c'est clair. C'est une... Le baptême sauve. Puis là, ça continue. Il nous sauve. Le baptême sauve. OK, mais d'abord, pourquoi est-ce qu'il s'en va parler juste avant de cette affaire-là de substitution dont j'ai parlé au tout début? Lui, juste pour les injustes, il est mort pour nous conduire à Dieu. Il n'y avait pas d'affaire, on avait juste besoin d'être baptisé. Donc, c'est ça, ce verset-là, si je le replace dans son contexte, ça pose problème pareil. Christ est mort, soi-disant pour nous sauver, mais mon pauvre Jésus, tu n'avais pas besoin de donner tant de peine. Le baptême nous sauve, Pierre l'a dit. Mais c'est-tu le baptême qui nous sauve ou c'est Jésus qui nous sauve? Mais bon, on pourrait se poser la question en lisant le texte. Là, si je le prends juste ce petit mot-là, cette petite parenthèse-là, ici, là, et ce qui est en rouge, là, je pourrais tirer des conclusions comme celles que je disais, là, mais ça ne tient pas compte du restant de la Bible. C'est ça le problème. Et ça dit, un petit peu, si on regarde, « Sauvé par un baptême qui ne consiste pas dans la purification des impuretés physiques. » Il y avait le baptême de repentance, je pense que c'était ça, c'est de se purifier. Puis, il y en a qui font des ablutions, c'est pour se purifier, se rendre pur. Puis les Juifs faisaient ça, les musulmans font ça aussi. Mais il dit non, c'est pas ça. Puis la Bible aussi dit, on est purifié, lavé dans le sang de l'agneau. C'est vrai? Ah, c'est-tu dans l'eau du baptême ou dans le sang de l'agneau? Hein, ça pose problème. Mais il y a des choses claires que ça dit, lavé par le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Et ça dit, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Puis ce que je trouve intéressant, regardez, là, il compare le baptême, une figure, avec l'arche. Est-ce qu'ils sont sauvés par l'eau? Non, ça dit à travers l'eau. L'eau dans le déluge, est-ce qu'elle était là pour sauver? Non, elle était là pour noyer. Qu'est-ce qui les sauvait? L'eau? L'arche. Est-ce que l'eau du baptême nous sauve? C'est Jésus qui nous sauve. Dans l'eau du baptême, on meurt à nous-mêmes. Et on s'identifie à Christ et on ressort. La même personne ressort, mais elle témoigne symboliquement que c'est la nouvelle vie de Jésus-Christ qui vit en nous. Et la représentation symbolique se fait par un baptême, mais ce qui s'est fait avant, c'était justement cet engagement-là d'une bonne conscience envers Dieu. Tu dis que je suis pécheur, j'accepte que je suis pécheur. Tu dis que je suis perdu, j'accepte que je suis perdu. Tu dis que Jésus est mort pour mes péchés à ma place, je ne comprends pas. Mais si tu le dis, moi ça fait bien mon affaire, j'ai besoin d'un sauveur, je te remercie et je m'engage à le suivre. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Est-ce qu'un bébé peut s'engager d'une bonne conscience? C'est pas pour ridiculiser des groupes qui baptisent les bébés, mais quand même pour être confronté, parce qu'il y a une erreur grave à mon sens. C'est comme, j'avais quelqu'un dans ma famille plus élargie, elle respectait Dieu, mais à chaque fois que mon père voulait lui parler, bon, ça, personne là. Non, je veux pas que tu viennes me voir, tu vas me parler de Dieu. Dans le fond, elle n'en voulait pas. Et à ses funérailles, le prêtre disait, c'est, elle est auprès de Dieu, elle qui est entrée dans la famille de Dieu par le baptême. Pourquoi? Parce que c'est pour lui le baptême qui sauve. Je me disais, non, c'est pas ça, c'est pas ce que la Bible dit. Elle a refusé la bonne nouvelle toute sa vie. J'ai jamais connu mon grand-père, mais il était converti, toute sa famille l'a rejeté. Par la suite, mon père et ma mère, moi, on est venus au Seigneur, mais longtemps après qu'il soit mort. Mais le reste de la famille n'ont rien voulu savoir. Peut-être que ça va changer, mais il n'en reste plus beaucoup. Mais ça ne prouve pas. T'sais, Hitler était baptisé, puis il a marché comme un démon. Est-ce que le baptême sauve? Hitler était baptisé. Puis la personne dont je vous parle était baptisée. Est-ce qu'elle est rentrée dans la famille de Dieu? Non, c'est un faux espoir que de penser ça. Une fausse promesse, une promesse mensongère. Je pense que c'est important qu'on se dise avec respect, avec amour, c'est pas le baptême qui sauve. C'est l'engagement d'une bonne conscience à suivre Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur. Une autre difficulté dans le texte. Je ne lirai pas toutes, là, mais c'était ici. Là. Est-ce qu'on en a fini avec le péché? Parce que c'est ça que c'est dit, on en a fini avec le péché. Et puis, dans d'autres versions, c'est dit « a rompu avec le péché ». Mais est-ce qu'on arrête de pécher en devenant chrétien? Non, malheureusement. On a encore la chair, le monde, Satan, qui nous tente, qui nous harcèle, et des luttes à n'en plus finir pour marcher d'une façon qui soit digne. Et puis, on a un test ici dans 1 Jean chapitre 3, verset 9. C'est dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. » C'est de façon habituelle. Il ne lutte plus, lui, avec le péché. Il pratique. Là, il y a un problème. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher ou pratiquer le péché parce qu'il est né de Dieu. Il y a quelque chose de différent. Il y a une lutte avec le péché. Mais si tu ne luttes même pas, un poisson là, qui suit le courant, qui ne se débat pas, c'est parce qu'il est mort. Le poisson qui nage dans le courant, il est vivant. Il marche, il nage à contre-courant. Une quatrième difficulté, et puis on va achever avec les difficultés après celle-là. Ça dit que l'Évangile a aussi été annoncé aux morts. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Puis il y en a qui ont pensé, ben oui, quand on... l'idée de purgatoire, ou que peut-être tout le monde va être sauvé, on va leur annoncer l'Évangile une fois qu'ils sont morts, et puis là, ben, ils vont devenir chrétiens une fois morts. Puis il y en a des groupes qui y croient à ça, qui pourront finalement, même après la mort, être sauvés. Mais je pense que, comme la note de la Bible disait, aux morts, c'est-à-dire à ceux qui sont maintenant décédés, ils sont morts maintenant, mais avant, ils n'étaient pas morts. Avant qu'ils soient morts, ils avaient entendu, après avoir entendu et accepté l'Évangile. OK, ceux-là, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Bon. Mais l'ensemble, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient la possibilité de se convertir? Non. Après quoi vient le jugement? Et c'est le texte qui parle justement d'un avertissement de jugement. J'aimais ça ici, la petite... j'ai trouvé ça sur Internet, Facebook. Je préfère marcher avec Dieu et être jugé par le monde. C'est un peu l'exemple qu'il nous donne dans le texte qu'on a lu. Que marcher avec le monde et être jugé par Dieu. Et puis, il y a cette vérité-là qui va avoir un jugement. Puis, j'en parle. Est-ce que tu es prêt? C'est dit dans la Bible, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Est-ce que quand tu vas le rencontrer, là, ça s'en vient? Est-ce que ça va bien se passer? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Puis, il y en a, tu sais, qui sont pleins de confiant. Hey, moi, ça va être mon chum quand je vais le voir, je vais rentrer là-bas. Qu'est-ce qu'on mange à soir? Puis je pourrais aller fouiller en frigo. C'est mon chum, Dieu. C'est beau, l'amour et puis l'intimité que tu projettes envers Dieu. Mais quand ça disait ça, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, c'était Israël, il va avoir un jugement pour toi aussi. Et chaque offense, chaque pensée pouvant offenser la splendeur, la majesté divine, tu vas en rendre compte. Ah, oh, Dieu, il comprend. Voyons donc. D'où tu sors tout ça, cette affaire-là? Et puis, ça me faisait penser, mais c'est ça. Là. Paul, quand il présente l'Évangile, il dit la colère de Dieu. Oui, la colère de Dieu se manifeste contre toute impiété, contre toute injustice de l'homme. Dieu est en colère contre toute impiété et contre toute injustice. Ça faisait penser à la petite histoire du petit gars qui niaisait une petite fille. Tu sais, le petit gars commence à niaiser une petite fille, hein, c'est normal. Puis il avait piqué un 25 cents. Puis il trouvait ça donc comique. Jusqu'à temps qu'elle aille se plaindre à son papa. Tu sais, puis son papa, il sortait de prison justement, tu sais, parce qu'il ne savait pas se retenir quand il était en colère. Et là, le petit gars, Là, tout d'un coup, la petite niaiserie, c'est pas 15, tu redonnes 25 cents, achale-moi plus. Non, non, c'est que le monsieur est en colère. Pourquoi? T'as offensé sa fille, tu l'as offensé. Hein? OK. Et là, c'est mais je veux pas ridiculiser Dieu que c'est un monsieur muscle injecté aux stéroïdes puis qui sort de prison. Mais c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est juste de réfléchir. Tu sais, si j'aurais peur, c'est juste pour me saisir, je trouvais ça bénéfique de me saisir, que peut-être des fois, je me suis mis quelqu'un à dos. Si c'est ma petite sœur, c'est pas grave. Si c'est mon père, c'est plus grave. Vous comprenez le principe? Mais là, si c'est ce monsieur-là, c'est très grave. Mais là, il y en a un autre. Que les anges se disent, il y a des séraphins dans le ciel qui ont 6 ailes. Deux pour se voiler le visage, 2 pour se cacher les pieds et 2 pour voler. Qui disent l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et que c'est... Et puis là, à la voix de ça, le temple s'est mis à trembler dans ses fondations. C'était comme toutes les fois que les gens ont vu des gens du ciel. Ils étaient comme devant ce gars-là. Ils perdaient tous leurs moyens. Et devant Dieu, qu'on a offensé Dieu. Et qu'il va avoir un jugement. Est-ce que tu es prêt à ce jugement, à rencontrer ton Dieu? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Si contre la moindre pensée d'orgueil, de rébellion, d'injustice que tu aurais faite, un 25 cents piquait la petite fille, et qu'il va avoir un jugement, je pense que c'est utile de se mettre ça, de le réaliser. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire-là. Tu sais, il y a des feux de prairie. Tu sais, comme on avait vu à Fort McMurray, ça va vite. Hein? Là-bas, c'est comme les plaines. Et puis là, il y a la broussaille, puis le feu, quand ça poigne là-dedans, ça va aussi vite qu'un homme peut courir, aussi vite que le vent s'est emporté. Puis là, les animaux, ça sauve hein, quand il arrive un feu de prairie comme ça. Et les plus rapides survivent. Et puis, ce qu'ils font, des fois, il y a des fermes, fait qu'ils mettent le feu alentour volontairement. Parce que quand c'est brûlé une fois, ça ne brûle pas deux fois. C'est un peu comme une leçon de si le jugement a passé sur Jésus une fois, puis je me réclame de ce jugement-là, il ne repassera pas une deuxième fois sur mes péchés. Si Jésus est mort pour mes péchés. Puis il y avait une petite fermette comme ça dans l'ouest. Et puis, il y avait un feu de forêt, un feu de prairie. Fait que là, il avait mis du feu alentour puis tout ça. Mais il y avait un petit gars qui grandissait là. OK, on rentre en dedans puis tout ça, on attend que le feu passe. Il ne pouvait pas courir avec la maison. Fait que il avait mis un petit feu alentour. Le feu est parti. Fait que le petit gars, il sort dehors. Après, comme un tout petit gars, il s'en va checker. Qu'est-ce que ça a de l'air? Bien, c'est bien spécial. Tout est brûlé. Puis là, une poule calcinée. Hey, c'est bien spécial. Puis là, elle aurait pu courir, la poule, se sauver, faire de quoi? Comment ça se fait qu'une poule questionnée, ma poule, là? Fait qu'un petit gars, comme tous les petits gars, qu'est-ce que tu fais quand tu trouves une poule calcinée? Tu sacs un coup de pied dessus. Fait que là, et plein de petits poussins qui se mettent à courir dans tous les sens. Puis là, même un petit gars, endurci comme un petit gars, cette poule-là, elle aurait pu sauver. Ses poussins ne pouvaient pas sauver. Elle a appelé ses petits poussins, elle s'est assise dessus, puis elle restait là. Le feu est venu, elle est restée là. Elle a suffoqué, calciné, elle est restée là. Puis était touché par l'amour de la poule pour ses poussins.
Et c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour qu'il porte à notre place un porteur de péché. Le jugement, la colère de Dieu qui tombait sur son Fils plutôt que sur nous, les poussins. C'est beau, c'est grand, c'est incroyable, c'est le seul moyen d'être sauvé. C'était soit les poussins qui mouraient, ou soit la poule qui mourait. Mais dans la brousse comme ça, les poussins n'avaient aucune chance, aucun moyen. Et toi, devant Dieu, tu n'auras aucun moyen de rendre compte de tes péchés. Mais le jugement s'y est tombé sur Jésus, à ta place. On pourra faire face. On pourra être préparé à rencontrer notre Dieu. Puis peut-être qu'on ne rentrera pas au ciel en disant « Salut mon chum, qu'est-ce qu'on mange à soir? » Non. Mais il va dire « Viens mon enfant. » Il y a un banquet de préparer pour toi. Il va y avoir des noces de l'agneau parce qu'il nous aime. Il a donné son fils autant que la poule, plus que la poule a pu aimer ses petits poussins, autant il a dû nous aimer. Et si on refuse? Ah, lâche la poule, tu sais, je suis assez bon, moi, je vais être capable. Je suis un poussin, je suis le plus fort des poussins. Il n'y aura pas de salut. La foudre du jugement, du feu, va passer sur lui. Et il va être emporté. Pour un poussin, il n'y avait qu'un moyen de salut. C'était leur poule, leur maman poule. De se réfugier dans son amour qui s'est donné en sacrifice. Est-ce que tu as accepté le sacrifice de Jésus pour toi? Si tu le refuses, il n'y aura pas d'autre. Je suis le chemin, disait Jésus, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, il n'y en a pas un qui vient au Père. Nul ne vient au Père que par moi. Pas moi, mais lui, que par Jésus. Il n'y en a pas d'autre moyen de salut. Et si tu penses par ta propre justice pouvoir rencontrer Dieu, ça risque d'être comme rencontrer notre ami ici. Et je vous invite à la repentance, c'est de dire, c'est vrai, là, je suis pécheur devant toi. Ce que tu dis à mon sujet, je l'accepte. Je t'ai offensé, j'ai eu des pensées rebelles envers toi, c'est à mon compte. Et je ne peux pas jamais rembourser ça, mon offense. Ce n'est pas le 25 cents. Qui choque, c'est ce que tu as fait à ma fille. Et ce n'est pas le petit vol qu'on a fait ou le petit mensonge qu'on a dit, c'est l'offense que ça l'a fait à notre Créateur. Donc, je vous encourage à venir à lui et accepter son offre de pardon que lui porte le jugement à notre place. Prions. Grand Dieu, on veut se tourner vers toi pour être émerveillé par ton amour. Seigneur, lui, juste pour des injustes. On veut te donner gloire, qu'il s'est trouvé dans l'univers une personne juste, le Fils unique de Dieu, le seul pouvant être juste, et que tu révèles dans ta parole qu'il est mort comme porteur de péché, et que j'étais pécheur, j'étais condamné à un jugement. Et Seigneur, je reçois ta bouée de secours. Je reçois ton amour, comme l'amour de la poule, d'être trouvé en Jésus, sauvé. Viens dans mon cœur et purifie-moi de ces péchés-là, par ton sang, au nom de Jésus. Amen.